Bonjour tout le monde, un spectaculaire commence, enfin, à 14h01, c'est formidable, ce mercredi 27 mars, on est complètement à l'heure. Émission 326, Christophe au micro, Francis est là, il est définitivement revenu. En fort bonne compagnie, nous recevons Cassidy, c'est génial, une chanteuse, une artiste lyonnaise, locale, bretonne aussi, française, internationale, qui vient nous parler pop et fun, c'est comme ça que je l'ai qualifié sur le blog, pop et fun. Elle vient nous parler d'elle, donc peut-être Lorient, nous verrons, de sa musique. Elle a un fort goût pour le jazz, non je plaisante, d'ailleurs je crois que j'avais dit que je ne vous indiquerai pas sa passion pour le jazz, et non elle vient plutôt nous parler de satellite jockey, éventuellement tôle froide peut-être, et surtout de ce dernier album qui est sorti, mais hyper récemment, c'était en janvier dernier, chez Vietnam, quelque chose de bien. Janvier, oui, 24, je crois que c'était à la fin du mois de janvier. Vous souhaitez en savoir davantage? Eh bien, on parle d'elle dans quelques instants. On va d'abord l'entendre chanter dans le groupe Satellite Jockey. Drôle de journée. C'est un titre extrait de l'album Le Weekend, sorti il y a quelques temps déjà, sorti en 2020. Écoutons ce premier titre. La suite de la programmation, ce sera presque que du Cassidy. Non, il y aura un petit peu de MGMT, hein, d'autres choses, hein, vous verrez. L'émission est jusqu'à 15h, comme tous les mercredis. Nous aurons aussi la chronique de Francis, numéro 38 ou 49 ou 52 ou 17. Je ne sais plus très bien, il faudra que je recompte. Vous nous écoutez jusqu'à 15h, comme tous les mercredis, sur le 102.2 de la bande FM, si c'est à Lyon. Et c'est très bien, hein, si c'est sur Internet, excellente chose aussi, c'est sur le radiocanu.org.
Thank you.
Bonjour Cassidy.
Salut Christophe.
Bonjour Francis.
Salut Christophe.
C'est pas très, très, très cool, fun et sympathique. Vous m'avez fait mentir, Cassidy. J'ai lancé qu'on allait vous écouter dans le titre de Satellite Jockey, la drôle de journée. Extrait de l'album Le Weekend, de publié en 2020, enfin sorti en 2020, Pop Club.
Tu allais dire 1900.
Oui, 1900, hein. tu m'as volé les mots de la bouche.
Je t'ai capté, Christophe.
Et en fait, on vous entend, mais pas au chant.
Non, je chante pas dans ce titre et je crois que je fais du clavier. Ça remonte, je ne me rappelle plus très bien.
Il y a 4-5 ans, oui, 5 ans l'enregistrement peut-être. Sais,
l'enregistrement, c'est 2019, je pense.
Mais quel type de clavier? Parce que ça,
alors,
déjà,
je crois que c'est du Rhodes dans cette chanson, mais je ne me rappelle plus très bien. Après, il y a de l'arpégiator, là, c'est du... C'est un synthé analogique, quoi, je ne me rappelle plus.
Un prophète, genre.
Ouais, ce genre de truc.
Vous l'aurez compris, auditeurs et auditrices, nous recevons une musicienne, artiste, le terme est encore quand même plus exact et plus précis pour vous, Cassidy. Si vous la cherchez sur Instagram, Facebook ou d'autres réseaux, attention à l'orthographe K-C-I-D-Y, et a priori tout en majuscule, hein, c'est ça?
Mm-hmm.
Il n'y a pas de minuscule. Une artiste majuscule, nous recevons donc Cassidy pour parler de vous-même. Alors peut-être moins votre parcours que... Enfin, l'album sorti aussi, très précisément en janvier dernier, chez Vietnam. Et mm-hmm. Je ne savais pas, un label fondé par Franck Hanez, mm-hmm. quelqu'un d'extrêmement intéressant. Moi, je le connais par le biais, comme Francis, hein, de magazine SoFoot. Ou
oui.
Peut-être Society, éventuellement. Oui, oui. Et donc, une sortie extrêmement récente. Donc, vous venez parler de cet album avec quelques dates de concerts à venir. Je crois qu'il y a une date à venir prochainement, au mois de mai, un petit festival qui se fait sur l'Ouest lyonnais. Enfin, je dis petit, non, un grand festival par la qualité.
Je suis petit.
Qualité du plateau, qualité des lieux, tout ça. Nous en reparlerons d'ailleurs, a priori, mercredi 22 mai, on évoquera ça. Donc, vous venez parler de différentes choses, mais la première question générale, généralement, que nous posons, on se l'est redit tout à l'heure hors antenne, vous souhaitez la formulation recherchée, Nietzschéenne, je la qualifie Cassidy. Comment êtes-vous devenu l'artiste que vous êtes? Qu'est-ce qui dans votre petite enfance, qu'est-ce qui dans votre jeunesse, quelle rencontre a fait que vous êtes devenu la personne qui est maintenant chroniquée, couverte par tout le monde, Les Inrecuptibles,
oh là là.
Libération, Radio France, FIP, enfin tout le monde vous évoque. Qu'est-ce qu'on est fiers à Radio Canut de vous avoir aussi?
Oh bah merci, non mais tout l'honneur est pour moi. C'est une question intéressante. On pourrait y passer beaucoup de temps, mais pour moi, c'est un peu difficile de répondre à ça aussi, parce qu'il y a un côté un peu prophétique du parcours que j'ai du mal à... Pour moi, c'est pas... Comment dire? Pour moi, les choses n'arrivent pas forcément toujours pour une raison, et du coup, revoir un parcours de vie avec ce prisme de se dire qu'est-ce qui a fait que je fais ça aujourd'hui. Il y a un côté un peu prophétique qui met un peu mal à l'aise, mais je pense que c'est beaucoup de chance, beaucoup de hasard, et alors une famille des parents mélomanes, tous les deux pianistes amateurs, et puis ma mère qui m'a très tôt... ma mère est un peu une artiste sans le savoir, et enfin... Elle n'a pas une carrière d'artiste, mais voilà, elle a ce goût pour la création, et elle nous a toujours dit qu'il fallait qu'on crée, qu'on soit dans la création, peu importe ce qu'on fait, mais qu'on crée. Et je pense que ça m'a bien marqué. Et elle m'a toujours dit qu'elle trouvait que j'avais quelque chose. Enfin, je sais pas, elle a cru en moi très tôt. Et je pense qu'elle a projeté sur moi beaucoup de ses propres... Là, je fais de la psychologie de ma famille, mais
je pense qu'en tout cas,
j'ai beaucoup réfléchi. Et... En fait, pour moi, c'est questionnant. Pourquoi est-ce que moi je fais ça, et que moi j'ai très très envie de créer beaucoup de chansons tout le temps? Je pense que c'est des parcours intimes particuliers, et voilà. Moi, je pense que c'est une concordance de choses qui font qu'aujourd'hui je me sens légitime à faire de la musique, et c'est pas rien. Et donc voilà, je pense que c'est plein de choses qui font que, et puis après voilà, j'ai fait de la musique en école de musique.
Ouais, c'était ça ma question, vous avez commencé quand même assez tôt.
J'ai commencé le piano à 7 ans, après c'était un peu chaotique, mais j'ai continué jusqu'à mon bac, classique puis jazz. Après j'ai arrêté, et puis quand je suis arrivée à Lyon, je suis allée au conservatoire de musique actuelle dans le labo. pour découvrir la partie musique actuelle. Et donc voilà, j'ai un parcours un peu hybride et en même temps aussi complet, quoi.
Riche, quand même.
Riche, voilà, c'est ça.
Oui, c'est...
Et aujourd'hui, je me sens bien.
Et c'est intéressant d'entendre. Je me sens légitime aujourd'hui, musicienne légitime. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont cette espèce de syndrome d'imposteur. Et alors que la création est au cœur quand même de la démarche. Je sais pas si.
Ouais, bah moi c'est par cette réflexion là sur la légitimité, parce que j'ai beaucoup d'amis eux qui ont ce problème quand même, enfin en tout cas ressentent ce truc de l'imposteur et de pas se sentir légitime, alors que moi j'ai la chance de pas du tout ressentir ça. Et je pense que c'est parce que très petite ma mère m'a bourré le crâne comme quoi j'étais extraordinaire et que voilà, et en fait j'ai fini par y croire, et du coup aujourd'hui je me sens tout à fait légitime à faire des trucs. Et donc, même si, voilà, enfin, je remercie ma maman pour m'avoir bourré le crâne de cette idée-là. Mais je pense que c'est un peu le cœur de. Si tu crois pas en toi, c'est pas facile d'oser, quoi. Enfin, si tu penses pas que tu peux faire des choses, que t'as le droit de le faire.
Et ça, c'est que ce soit pour la musique ou pour l'écriture de texte, c'est quoi le. Est-ce que c'est. Qu'est-ce qui pousse à être plus légitime ? Est-ce que c'est le texte ou est-ce que... je sais pas.
Moi, je me sens plus musicienne. Enfin, je me sens plus légitime dans la musique. Parce que j'ai une formation de musicienne. Donc, puis c'est vraiment un médium que je comprends, qui me parle et tout. Le texte, j'y viens de plus en plus. Mais je me sens beaucoup moins légitime sur la partie texte. Et... En fait, j'aimerais bien, par exemple, écrire des chansons qui parlent pas de moi, mais je me sens pas du tout le droit de faire ça, quoi. J'arrive pas à écrire quelque chose. C'est très difficile, je m'autorise qu'à parler de moi. Donc ça donne un côté très égocentré, mais c'est plus par souci de pas parler à la place des autres que du coup... Alors que, par exemple, j'ai une amie, Leslie Chanel, qui écrit des textes absolument magnifiques... À la première personne du pluriel, je trouve ça incroyable. Enfin, moi, ça me touche, quoi. Donc, je trouve ça super que des gens écrivent comme ça.
Et là, sur tes albums, c'est toi qui écris les textes ?
Oui, en grande partie. Et notamment, Leslie Chanel a écrit plusieurs textes. Et aussi Marion Josserand, qui a un groupe qui s'appelle Jokari, qui a écrit un texte en entier toute seule. Et on en a fait deux à quatre mains. Je lui ai envoyé une première ébauche. Et puis, je trouvais qu'il y avait des phrases un peu nazes. Et du coup... Je lui ai proposé de modifier, d'améliorer. Donc ça, c'était super. Ça a amené plein de nouvelles facettes aux chansons. Et moi, j'aime beaucoup, en fait, me projeter dans des textes comme ça d'autres personnes. Je trouve ça super.
Est-ce qu'on pourrait un tout petit peu peut-être mettre de la géographie et de la chronologie dans tout ce que vous avez indiqué, c'est-à-dire est-ce que, ou même ça peut être des questions tout à fait aussi encore également essentielles, existentielles, esthétiques, oui. À quel degré peut-être votre naissance bretonne avec le nom de famille que vous avez, on ne l'a pas donné, est-ce qu'on indique prénommé Pauline Le Caignec avec cette terminaison EC qui je crois est caractéristique de la Bretagne.
Voilà.
Est-ce qu'il y a quelque chose qui a pu jouer ? Et puis ensuite, votre évolution, vous parlez à l'instant des textes. Il me semble avoir compris que vous avez commencé à écrire des textes dans une autre langue. Donc, quand est-ce que vous basculez d'une autre langue au français ? Donc, enfin, je sais pas, est-ce que là, en gros, ça pourrait
on
faire la matière
que
de questions.
J'ai chanté en breton avant. non, c'était en anglais.
Je fais exprès, voilà, c'est ça. Mais est-ce que la Bretagne a pu jouer ? Et puis, est-ce que l'anglais, enfin, il faudrait évoquer un peu, peut-être, ça pourrait être une question de Francis, des influences. Comment caractériser votre musique ?
Bon, moi, j'ai vraiment une culture anglophone de musique, quoi. Du coup, j'ai commencé par l'anglais, comme beaucoup, beaucoup de groupes français. De personnes de ma génération qui ont commencé à écrire en anglais parce que c'est vraiment la référence dans la tête, quoi, les textes en anglais.
Et le sens,
c'est aussi, une langue qui est très facile à chanter, je trouve, et très, très mélodieuse. Enfin, les sons sont agréables à chanter.
Et le sens importe peut-être moins, c'est ça aussi ?
Et aussi, ben moi, quand j'ai commencé à écrire des chansons, le texte était vraiment au second plan. J'assumais pas du tout, enfin pour moi j'avais un peu rien à dire, c'était vraiment très très c'était même du yaourt, quoi, un peu ce que je chantais. Donc, et puis après, quand j'ai commencé à approfondir le sujet, que j'ai écrit par exemple un texte en français que j'ai essayé de traduire en anglais, donc là je me suis dit que c'est vraiment, vraiment débile, donc là j'ai gardé mon texte en français et puis j'ai commencé à faire de plus en plus de français, quoi. Et je trouvais bien sûr que voilà, on a plus de facilité à rentrer dans des nuances, à écrire des choses plus sensibles, plus profondes en français. Moi je suis très très nulle en anglais, donc fallait que je me rende à l'évidence. Et la Bretagne, je sais pas. Bon, j'ai un parcours compliqué. J'ai une famille bretonne. Ma mère est lorientaise, mon père est à moitié lorientais aussi. Et j'ai habité un tout petit peu à Lorient, mais voilà, c'est pas très intéressant de raconter tous mes déménagements. Mais
vous êtes passé par Rennes un petit peu.
Oui, j'ai habité à Rennes. Ouais. Non, mais c'est sûr que moi j'adore la Bretagne. J'y vais tous les étés. J'aime vraiment beaucoup cette région. Je sais pas si ça a joué. Je pense oui, peut-être ce qui a joué, c'est plus le fait que j'ai beaucoup bougé. Et du coup, de pas vraiment avoir de racines profondes et de devoir s'adapter. Ça, je pense que c'est plus ça qui m'a marqué qu'en soi cette région de la Bretagne que j'adore
la
par ailleurs.
La lumière, les paysages.
Ah non, mais c'est très beau.
L'humidité.
Oui, oui. Ah oui, oui.
La fraîcheur.
Et les gens aussi, les gens sont. Enfin, c'est un peu cliché de dire ça, mais je trouve qu'il y a une super ambiance en Bretagne. Les gens sont très, très sympas, très accessibles et pas très snob, quoi. Enfin, j'aime assez bien.
Simple, la simplicité.
Simple,
quoi.
Ouais, simple.
Après, ah, mais c'est des choses simples. J'ai volé une question, Francis. Est-ce qu'on parle de la Bretagne ou de votre musique? Quelque chose de simple. Francis, tu.
Non, mais en fait, je voulais revenir pour rebondir un peu sur ce qu'on disait sur la partie anglophone et francophone. Ce que je trouve intéressant, c'est que justement, en parlant un peu des influences, en tout cas des musiques que tu écoutais et de tes influences, je trouve intéressant qu'il y ait toute une scène aujourd'hui francophone qui travaille avec cette écriture qui est pas du tout comment dire naturel pour des artistes français, et il y a toute une filiation comme ça d'artistes qui existe depuis un petit bout de temps là déjà, mais ça, on va dire je sais pas moi 10 ou 15 ans,
ouais.
Et qui donne un nouvel élan à la chanson française, je sais pas si on peut dire chanson, mais en tout cas au texte français, avec une approche artistique et musicale qui est un peu moins cliché,
je dis plus anglophone, en
voilà,
fait.
C'est
un truc. Moi, je pense que c'est très facile. C'est un truc de découpage des mots. En fait, pour moi, il y a une tradition dans la chanson française. Par exemple, je sais pas, Brel, j'en sais rien. Où en fait, on entend vraiment très bien la phrase avec toute sa ponctuation. Alors que par exemple moi, quand je chante une phrase, elle va être découpée. Des fois, j'étire un mot ou on ne sait pas où est le point, parce qu'en fait, je vais plus chercher le rythme, enfin à ce que la phrase elle rentre dans mes arrangements de musique et pas que le texte soit au-dessus. Et ça, donc je pense qu'on est beaucoup à faire ça.
Et puis même dans les couleurs musicales, quand on écoute, je pense à plein d'artistes, des connus et des moins connus, dans toute une filiation, je pense à Forever Pavot, à
ouais.
François Virault, un peu plus médiatique, je pense à des Bertrand Belin,
ouais.
Des gens comme ça qui redonnent de nouvelles couleurs.
Ouais. Bah, Bertrand Belin, il fait exactement, il fait beaucoup ce truc de découpage des mots. Et même, alors lui, je pense, ce qui est encore plus impressionnant, c'est qu'il va chercher dans la façon de prononcer les mots, de les faire sonner, les voyelles et tout, c'est très très spécial, enfin, c'est vraiment son champ à lui.
Le vocabulaire lui-même, hein, hyper
le
nuit,
vocabulaire,
où est-ce qu'il va chercher le terme de hyper nuit,
c'est... Et Forever Pavot, pareil, c'est des façons de chanter assez, enfin c'est très, pour moi c'est très anglophone. Bertrand Belin, c'est un peu différent, c'est très ouais. Original, je trouve, ce qu'il fait.
Je pensais aussi à Jean-Louis Murat qui a disparu il y a pas longtemps, où justement tu parlais de surmixer la voix, en tout cas qu'on entende un peu plus les phrases aussi. Alors Murat, c'était tout l'inverse, lui.
Ouais.
Donc c'est intéressant aussi de voir qu'il y a une approche beaucoup plus anglo-saxonne de l'écriture musicale, les arrangements, mais par contre que le français reprend sa place. Et je trouve que c'est ça aussi qui qualifie Cassidy, c'est aussi ça, quoi.
Ouais.
Cette nouvelle écriture et ce sens différent. en tout cas.
Après, si tu vas avoir... j'y pense là tout de suite, par exemple... France Gall dans la période yéyé ou quoi, enfin les la façon de chanter, c'est hyper, enfin sa voix elle est comment dire, des fois on dirait un synthé quoi, elle fait des lignes de chant qui sont hyper dures à chanter, c'est vraiment c'est très mélo, c'est très musical, enfin je sais pas comment dire, c'est très mélo, c'est très, on entend bien le texte mais on entend surtout je trouve une mélodie et une musique dans son ensemble, donc je pense que ouais, il y a aussi ça dans l'histoire de la musique française. Moi j'ai découvert ça très tard, ça fait pas du tout partie de ce que j'ai écouté enfant et ado et tout, mais
serait-ce l'album de la maturité.
C'est ça.
Nous parlons bien donc de Quelque chose de bien, sorti en janvier dernier. J'ai la liste des albums précédents. En 2014 c'était Pursuit, c'est ça.
Pursuit,
même un EP. En 2016 toujours un EP aussi, Running on the Roof chez Abbey Records. 2017 Lost in Space, Abbey Records toujours. 2019 projet un peu particulier, Cassidy Adi, le Pop Club Records. Et puis en 2021, vous commencez avec Vietnam, Les gens heureux. 2024, janvier dernier, Quelque chose de bien. Sommes-nous prêts à écouter un titre? Ou alors justement, peut-être, on parlait d'influence. Francis, tu n'as pas évoqué ce terme-là, enfin du moins le nom de ce groupe qui vient de sortir un autre album, je crois, très récemment. MGMT.
Il a sorti quelque chose
il y a un mois ou même pas, ou c'est peut-être
l'album
mars,
est
ouais.
sorti là.
Alors moi, je dis à la française, je dis MGMT.
Oui, MGMT, moi aussi,
ouais, mais... Je fais même le G. Est-ce qu'on écoute Loss of Life ou on se met sur quelque chose on se met sur quelque chose de bien? Non, peut-être quelque chose de bien quand on en parlera plus précisément.
Comme tu veux. Moi,
bon, alors nous sommes donc avec MGMT, Perte de vie, Loss of Life. Oui, je ne sais pas si c'est exactement ça la traduction. C'est un album de c'est un ancien, non, c'est ça, c'est le...
Ah, c'est récent là, c'est le dernier.
Ah, c'est celui-ci. D'accord, c'est pas les Kids ou le truc des années 2000. Nous parlons bien donc avec Cassidy, nous allons parler de son album, on peut le qualifier de nouvel album, sorti fait quoi, 2 mois, 3 mois à peine, que vous allez produire un peu. Il y a quelques dates bretonnes, je crois, il me semble. Vous passez un peu partout. On égrènera, et notamment à la fin du mois de mai, ou disons deuxième quinzaine, dans l'ouest lyonnais, sur sera quelle commune d'Ardy,
ce sera Saint-Gilles-les-Aulières.
Saint-Gilles-les-Aulières.
Le 25 mai, oui.
Eh bien, écoutons MGMT et nous continuons avec Cassidy sur justement ce dernier album, Quelque chose de bien. Et ça se termine de manière un peu abrupte, mais c'est une revanche peut-être sur les dernières émissions où j'arrêtais pas de couper les morceaux qui duraient 6-7 minutes à chaque fois.
On disait hors antenne qu'il y avait un petit côté Divine Comedy, un petit côté Nine Anon, je sais pas si...
Milena, nous écoutions à l'instant Loss of Life de MGMT sur l'album justement aussi Loss of Life. Oui, c'est même le part 2. Part 2, oui. Celui-ci. Un titre recommandé par Cassidy, que nous recevons aujourd'hui pour parler de son dernier album, sorti en janvier dernier. Quelque chose de bien. Moi, j'aime bien parfois les questions qui se posent, qui se formulent pendant qu'elles se posent. Comment est-ce que nous pouvons présenter cet album, Cassidy? Comment que mettre en avant?
Que je fasse votre travail.
Non, pas complètement. La genèse, des thématiques ou des, ou des, je ne sais pas, ou certains titres à mettre en avant. Il y a de belles vidéos. Hein. Le sentiment banal, la vidéo est vraiment fun. Pop est fun. C'est complètement, c'est plein de couleurs. C'est assez réjouissant. Donc Cassidy, effectivement, pourriez-vous faire mon travail? Quel angle d'attaque avoir pour parler de quelque chose de bien sorti chez Vietnam avec Vagram, c'est ça? C'est toujours
la distribution.
Oui, pour janvier 24,
c'est tout
complètement
récent.
Frais.
Quelque chose de bien. Alors c'est marrant parce que le titre, je l'ai trouvé très très tard et c'est une phrase que je dis dans une des chansons. Je dis c'est une chanson qui s'appelle 2020 et c'est il peut encore arriver quelque chose de bien. Et je pense que c'est un peu ce que j'ai essayé de faire dans cet album, c'est-à-dire j'avais vraiment envie de c'est un album confinement quoi. C'est un album du confinement. Donc c'est un album que j'avais des chansons qui étaient plus anciennes, mais voilà, j'ai quand même vraiment, je me suis lancée dedans en mars 2020. Et mais du vin et j'avais envie de faire un truc joyeux quoi, qui soit pas plombant. J'avais l'impression d'avoir parlé de trucs déjà assez mélancoliques, de mes émotions. J'avais l'impression d'avoir fait un peu pas le tour, mais enfin d'avoir beaucoup parlé de trucs un peu barbants. Et en fait j'avais envie de faire quelque chose qui rende les gens joyeux. Sans dire heureux, je sais pas, voilà.
Mais c'est pas un titre précédent, ça, Francis, sur l'album
Si, tout à fait.
Les gens heureux, c'est le titre d'avant et l'album d'avant. Et donc, bref, j'avais envie de faire un truc joyeux. Donc, je me suis mis ça en tête et puis j'ai commencé à composer des chansons avec cette idée-là de faire des chansons légères dans leur réception. Sans vouloir dire qu'elles soient simples, mais en tout cas, j'avais envie que ça soit. Agréable à écouter et qu'on puisse fredonner les textes, les chansons, les mélodies, voilà, j'avais envie de ça. Donc je me suis mis ça en tête. Et après, j'ai travaillé pendant 2 ans de composition, travail avec mes musiciens. J'ai fait des démos.
Comment ça se passe la création? C'est d'abord toi toute seule à la maison, sur ton ordi, sur tes instruments, tu t'enregistres et puis tu fais des choses et ensuite tu le proposes aux musiciens.
Ouais.
C'est comme ça que ça.
Et je pensais aussi les textes. Alors qu'est-ce qui a lieu en mars-mai 2020? Donc c'est plutôt
l'écriture
des textes.
Non, c'est la musique. Moi, c'est toujours la musique en premier. Après, quand je fais une chanson, il y a toujours un peu du yaourt en même temps ou une phrase. Je dis une phrase et puis après, je m'en servirai plus tard pour écrire le texte, la suite du texte, mais. C'est vraiment, je pars jamais d'un texte, pour l'instant en tout cas j'ai jamais fait ça. Et donc là pour cet album là j'ai fait mes démos dans mon local, donc je fais tout
sur un ordi, c'est ça, demande Francis. Oui, c'est des
j'ai rangé sur mon ordi, mais après je fais la batterie, je fais
qui est une découverte en 2012-13, c'est ça. C'est
plus trop de MAO,
oui,
maintenant,
mais
j'enregistre surtout des pistes quoi. J'enregistre des démos, je fais les batteries assez mal jouées, je fais pas les guitares et les basses parce que j'ai la chance d'avoir mon copain qui est bassiste et guitariste, donc souvent je lui demande assez tôt de venir dans ma démo et puis je lui dis de faire des trucs et voilà, il me les fait, donc c'est super. Et après moi je continue à travailler mon morceau, ma structure. Après on a assez rapidement joué avec les musiciens. J'avais fait un peu exprès de pas aller très très loin dans mes démos parce qu'une fois que ma démo est, si je vais trop loin après je veux plus rien toucher, donc là j'avais fait exprès de pas trop avancer et on a assez rapidement joué les morceaux, on les a réenregistrés, j'ai retravaillé, on a fait pas mal d'allers-retours comme ça jusqu'à arriver à une en fait je voulais que ça soit taillé quoi, je voulais que ça soit hyper précis, hyper que chaque instrument ait sa place harmoniquement, enfin dans la fréquence des sons, dans l'harmonie, que ce soit vraiment très très précis.
C'est aussi des formats assez pop finalement.
Et en fait voilà, je voulais faire un truc hyper pop et je voulais aussi qu'on enregistre live à la fin de tout ça. Donc il fallait qu'on ait...
Ah, enregistrer live, ça veut dire enregistrer tous en même temps.
Voilà, peut-être pardon. Préciser, ouais. Oui, voilà, qu'on enregistre tous en même temps, sans clic, qu'on soit... qu'il y ait un truc de senti, quoi, de ressenti de
collectif
jeu.
Aussi, une expérience en commun, ensemble. Oui.
Ouais, voilà. Et puis je voulais qu'on... En fait, j'ai été en train de regarder le documentaire sur les Beatles... qui dure 9 heures.
Confinement, quoi.
Ouais, et ben là, c'était la naissance de mon enfant, là, du D'accord. coup, c'était en congé mat. Et c'est le documentaire Get Back, où tu les vois, en fait, créer Let It Be. Et j'ai adoré regarder ça, parce que je trouvais ça impressionnant. Ils jouent tout le temps, ils jouent. Ils font tourner les morceaux, mais des heures et des heures et des heures. Et c'est comme ça que les morceaux naissent, enfin, prennent leur forme. Et du coup, je me suis dit que j'avais envie de trouver, voilà, ce feeling que c'était pas grave s'il y avait un pain, et que par contre, si la prise elle est cool et qu'il y a vraiment un bon ressenti, c'est ça que j'ai cherché.
Est-ce que ça implique que les musiciens qui sont sur cet album étaient déjà présents sur l'ancien, et que c'est des musiciens avec lesquels t'as l'habitude de jouer aussi?
Ouais, carrément.
Il y a une confiance.
Ben, je me suis lancée, enfin, j'avais envie de faire ça parce que je connais super bien ces musiciens-là, que c'est mes amis, et je leur fais vraiment 100% confiance, et du coup, j'avais pas peur, voilà, de ce qu'ils allaient proposer, parce qu'ils ont été aussi force de proposition, et du coup, donc ouais, c'est sûr que c'est aussi une aventure d'amitié.
Et puis ils connaissent maintenant un peu la couleur que tu as, donc c'est ça aussi, voilà. C'est qu'ils vont pas s'éloigner, ouais, de ce que tu peux proposer, toi, ouais, habituellement.
Voilà, c'est ça. Et puis on joue bien ensemble, enfin, c'est facile, quoi. Du coup, c'était vraiment très très agréable.
Mais alors, je me demande là, peut-être que la question, on aurait pu se la poser en début d'émission. Cassidy, ce nom, donc K-C-I-D-Y, tout en majuscule, mm-hmm. Est-ce que c'est est-ce une sorte de pseudonyme, ou plutôt un nom de groupe? Qu'est-ce que c'est vraiment? Ou c'est un concept? Ou qu'est-ce que... En plus, l'écrire de cette manière-là, ce Cassidy, en fait, enfin, qu'est-ce que... Pauline,
Alors, Cassidy, à la base, j'étais toute seule. Quand j'ai commencé à...
Piano, c'est ça, piano et voix?
Ordi, beaucoup, beaucoup de trucs dans un ordi, beaucoup de bazar. Et, donc, en fait, j'ai commencé à faire mes chansons toute seule. J'ai appelé ça Cassidy. Ça sonnait un peu comme un prénom féminin, comme un blaze féminin, donc ça marchait plutôt bien. Il s'avère qu'après, j'ai rajouté un, puis deux, puis trois. Maintenant, on est cinq personnes sur scène. Donc Cassidy, c'est plus ou moins moi. Et c'est la version augmentée de moi-même. Et du coup, voilà, c'est le nom du groupe, et c'est un peu moi, quoi.
Parce que, est-ce qu'on pourrait peut-être dire un mot tout de suite de satellite jockey et mm-hmm. Tôle froide, une sorte de pause là, actuelle, sur c'était un trio que j'i vu qualifié de punk et uh-huh. punk féministe un peu, c'est ça?
Ouais, carrément. Tôle froide, c'est un trio qu'on a monté avec Morgane Adrien et Leslie Chanel en 2016. Batterie, basse, orgue. Moi, je faisais la batterie. C'était punk.
Peu de titres, une dizaine de titres, c'est ça? Ou c'est...
Bah, on a fait beaucoup de chansons, mais très courtes.
Ah, mais format punk, ouais.
Voilà. On a démarré ensemble, en fait, chacune, plus ou moins un instrument, et du coup, c'était ça un peu la démarche punk, quoi. C'était de faire un peu le truc sans pression, en assumant totalement de jouer de façon parfois très à l'arrache. Et après, on a bien progressé quand même sur le temps qu'on a joué. Et oui, c'était punk, post-punk et un peu pop aussi quand même. On a beaucoup tourné avec ce groupe et ça s'est arrêté en 2020. Dernière tournée en Italie, tout début du Covid, donc c'était assez lunaire. Et voilà, et puis on verra plus tard.
Sorte de pause actuelle.
C'est pas vraiment une pause, c'est fini.
Oui,
mais voilà,
mais
peut-être qu'un jour il y aura une reformation, oui. Mais je veux pas lancer des idées comme ça, mais c'est plutôt fini quand même comme groupe, quoi.
Et pour ce qui est du premier titre qu'on écoutait en ouverture d'émission, Satellite Jockey, la drôle de journée, donc vous intervenez dedans, mais voilà, c'est moins vous, enfin c'est pas vous.
Moi, je suis interprète
pas,
dans le groupe, voilà. Je suis juste interprète.
Et là, on vous écoutait, on l'a dit donc en tout début d'émission, c'était au clavier, c'est ça?
Ouais, je suis au clavier et au chant.
Mais vous chantez quand même la plupart des... Oui, là aussi, il y avait un peu de... Moi, il me semblait que c'était surtout une voix d'homme pour ce titre.
Bah, c'est surtout le groupe de Rémi Richard. Et voilà, il y a des fois des chansons où il me fait chanter, mais sinon, C'est surtout lui.
Et ces différentes expériences-là, ça veut dire que l'idée, c'est aussi d'aller voir ailleurs, quoi. De chercher, de faire d'autres... Est-ce qu'il y a d'autres aventures artistiques que
ce qu'on vient de dire là ?
Ouais.
Ouais, j'aimerais bien. Là, je suis en train de lancer pas mal de petites collabs avec des amis, avec François Viro, par exemple. Moi, j'aime bien... faire d'autres choses que moi toute seule dans mon coin, ça m'intéresse, au bout d'un moment ça m'intéresse plus, enfin j'ai besoin d'aller voir ailleurs un peu, donc oui je fais souvent ça et j'en ai besoin, donc il y en aura d'autres je pense.
Bah, à l'image de cet album du coup, d'être travailler dans le collectif quoi.
Ouais.
Si on suit bien un peu la philosophie, c'est un peu ça quand même.
Ouais, moi j'en ai besoin, j'aime vraiment beaucoup, et en fait j'aime vraiment beaucoup jouer avec des gens quoi. Je trouve ça vraiment génial de faire vivre un morceau, de le vivre quoi, au moment réel. C'est quand même à la fois c'est génial d'être sur un ordi, de pouvoir empiler des pistes, et parce que voilà, on est dans la précision, on peut faire un truc très très léché. Et en même temps, jouer avec des gens, sentir le groove, je trouve que c'est quand même une expérience incroyable. Et c'est ce que je préfère dans la musique. Et c'est ça, je trouve que la musique est pour ça assez géniale, c'est qu'on peut partager avec des gens qu'on connaît. Qu'on peut ne pas connaître du tout, un moment absolument incroyable. Enfin...
C'est rigolo parce que le métier fait qu'il y a de plus en plus de carrières solo, mm-hmm. avec des chanteurs et des chanteuses qui sont seuls sur scène, pour des raisons, alors on peut dire que c'est pour des raisons économiques, mais pas que, j'ai la sensation qu'il y a aussi un individualisme qui se met en place pour plein de raisons qui est lié à ce qu'on voit aujourd'hui dans la société, hein, où il y a beaucoup d'individualisme. Et je trouve que la musique retraduit ça,
ouais.
Artistiquement. Et là, tu es en train de nous dire tout l'inverse, donc c'est intéressant.
Ben ouais, moi je suis assez... Moi j'ai une opinion assez négative de cette évolution des groupes, en tout cas de la musique live, où on se retrouve à voir des fois des karaokés. Alors j'adore le karaoké, mais... Mais voilà, pour moi c'est un peu dommage. Quand je vais voir un groupe en concert, j'ai envie de voir le groupe qui joue. J'ai pas envie de voir. J'ai envie de savoir ce que. J'ai envie de voir ce que j'entends. Mmh. J'ai envie de voir les gens qui jouent ce que j'entends. J'aime pas du tout quand je ne comprends pas qui fait quoi. Mmh. Ou alors, par exemple, Animal Collective, alors c'est génial parce qu'on comprend rien à ce qu'ils font, mais parce que c'est absolument. C'est du bricolage de son, enfin, c'est autre chose. Mais je sais pas, quand il y a un groupe de 5 personnes et qu'on entend des pistes, on sait pas d'où ça sort, on a l'impression que personne ne joue ça. Alors moi, ça j'aime pas du tout. Après, c'est parce que je suis vraiment une nerd de ce truc-là. Mais. Alors je pense aussi qu'il y a un truc des. C'est tellement facile maintenant d'avoir une sorte de batterie, une boucle de batterie sur Logic ou que sais-je. Du coup, en fait, on n'a pas besoin de trouver un batteur. Après, on trouve tous les sons de la Terre dans des banques de sons, ce qui est à la fois génial et voilà. Et du coup, on a de moins en moins besoin de trouver les gens en vrai pour faire les trucs. Et aussi, moi, quand je vais à Paris, j'hallucine des conditions de répète des icos là-bas. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de matos. Ils se pointent dans un local de répète, ils n'ont pas d'ampli, ils n'ont rien, ils arrivent dans un local, ils empruntent tout. Et du coup, je pense que c'est assez compliqué pour elles et pour eux de monter des groupes quoi, à Paris, par exemple. Et peut-être qu'à Lyon, il y a ça, alors je pense quand même beaucoup moins, parce qu'il y a quand même beaucoup de locaux de répète et tout, mais je me dis qu'il y a un peu de ça, quoi. En fait, ça devient plus compliqué de faire de la zik ensemble, je sais pas.
Ouais, c'est à la fois ce qu'on disait, économique, mais aussi dans l'air du temps.
Je pense économique, par contre, c'est purement le côté business, quoi. Enfin, c'est un peu, pour moi, c'est un peu une injonction des programmateuristes, des bookers, enfin... C'est toutes ces personnes-là qui te font sentir que quand t'es 5 sur scène, c'est trop.
C'est compliqué, ouais.
Donc, d'un moment, ça fait que les groupes ils sont moins, quoi. Ça, c'est un peu un problème, quand même.
Est-ce qu'on écouterait un titre de quelque chose de bien ? C'est conversation forte, intéressante, mais on a quitté un peu
oui, pardon,
l'album.
Moi, je peux parler.
Est-ce qu'on pourrait écouter, puisque je vous remercie, Cassidy, vous nous avez suggéré 3 titres. J'ai tant attendu, Octobre, et Soudain, j'ai perdu
soudain
le titre.
Soudain, une envie.
Soudain, une envie. Lequel est-ce qu'on pourrait écouter, pour peut-être après le commenter ou en écouter un autre ensuite aussi
Soudain une envie, allez.
soudain une envie. On vient d'évoquer Animal Collective, j'ai un titre d'Animal Collective que vous m'aviez recommandé, mais on va peut-être quand même écouter ce quelque chose de bien. Ce serait quand même une bonne chose. Donc nous sommes bien sur l'album Quelque chose de bien, sorti en janvier dernier. Soudain une envie, Cassidy, un titre de 3 minutes, où on aura même le temps d'en écouter un autre. Ah, voilà, la chronique à venir de Francis. Je crois que c'était dans
Dorémy
le... Dorémy Lavie. Merci Cassidy. Un titre extrait de votre album, sorti en janvier dernier. Quelque chose de bien, c'était le titre Soudain une envie. Un commentaire, une remarque. Le clip est intéressant, hein. Je le qualifie à la Michel Gondry. Ce n'est pas vous qui l'avez réalisé, ce n'est pas lui non plus. Mais c'est bien, c'est une sorte d'esthétique, je ne sais pas comment appeler ça, carton, bout de ficelle. Mais c'est très fun.
Bricolé.
Très bricolé.
Le clip raconte une sorte de start-upeuse qui fait un burn-out un peu, quoi, et qui du coup décide de sortir de son petit Algeco là, et d'aller courir dans la forêt. C'est un peu ça l'idée.
Est-ce que c'est à l'image de l'album un peu? Est-ce qu'on peut... Je sais pas, c'est une question que j'invente complètement. Là, je l'invente, je la pose comme ça. Enfin, je veux dire, est-ce que c'est à l'image de l'album ou c'est ce que tu disais, Francis? Je crois qu'il y a des choses quand même très différentes. C'est le sentiment banal. Je crois que la chanson ne dure même pas 2 minutes. C'est, donc, il y a un peu tous les formats. Tu parlais de format pop tout à l'heure, Francis. Est-ce que c'est en termes d'instru on parlait de musiciens tout à l'heure. Sont-ils présents sur chacun des titres ou ça dépend des... De la formation, ça dépend.
Alors, beaucoup de questions. Est-ce que c'est représentatif de l'album? Je ne sais pas. En tout cas, il y a à peu près les mêmes instruments sur toutes les chansons, mais voilà, ça sonne quand même différemment dans chaque morceau.
Mais toujours de la fantaisie, peut-être?
De la fantaisie. Moi, j'aime bien le second degré. J'aime bien qu'il y ait un peu d'autodérision. j'aime pas trop me prendre trop au sérieux. Et donc il y a beaucoup ça dans cette chanson. Il y a beaucoup de, j'avais envie que ça soit un peu des, voilà, une petite blague. En même temps, en fait, c'est un peu un, la chanson, c'est un peu, je rigole un peu autour du discours entrepreneurial, de dire voilà, tout d'un coup j'ai une idée d'entreprise. Et en même temps, ça parle aussi d'envie de changer des choses dans sa vie. Enfin, ça parle aussi de d'envie intime. Moi, c'est des moments où j'ai eu envie d'avoir un enfant, donc ça parle un peu de tout ça en même temps. Voilà, donc c'est un peu mélangé, mais il y a ce truc de second degré, et on est parti sur ça en fait pour le clip.
Et, mais même musicalement, quand on écoute ce titre, moi, ce que je note à chaque fois, c'est ce sens des petites mélodies, que ce soit au clavier ou la mélodie chantée. Il y a toujours cette envie-là, et qui ressort dans plusieurs des titres de Cassidy. Mmh. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est recherché.
La mélodie.
La mélodie principale, mais même ce qu'on appelle des riffs.
Ouais.
Il y en a de partout en fait.
Ouais, bah moi j'aime beaucoup. Ouais. J'aime bien que ce soit. J'aime bien que ce soit fourni et qu'on puisse à la réécoute tomber sur un tout petit détail, et puis après être sensible à ce petit détail sans que ça soit trop chargé un peu mais voilà, oui c'est vrai, j'aime bien.
Et c'est ça qu'on disait en préambule, c'est ce qui fait un peu ce renouveau de la chanson quoi.
Ouais,
c'est justement ces petites couleurs là qui sont différentes et qui cassent un peu les habitudes.
Ouais, bah merci.
Quel autre titre rendrait peut-être un peu compte de ce que nous sommes, ou je vais être un peu plus honnête, de ce que vous êtes en train d'évoquer, le titre Octobre ou J'ai tant attendu?
J'ai tant attendu parce qu'il y a un peu de tout. Il y a un long passage piano parce que je suis pianiste, et pour le coup là c'est un titre 100% premier degré c'est l'émotion quoi. Et après il y a toute une fin un peu envolée 60s quoi. Donc c'est assez cool, ça fait ces deux titres là, ça donne une bonne idée de l'album, je trouve.
C'est bien de le présenter avant parce que je tenterai de réussir la chose. On va enchaîner ensuite sur la chronique de Francis. Presque littéraire, l'égoïsme se partage, numéro 37, hein, je crois, c'est ça, il me semble, on
46 200.
Voilà. Donc écoutons tout d'abord le titre, on a dit J'ai tant attendu, c'est ça. Octobre, a priori, en fin d'émission, puis Animal Collective, je pense que ce sera peut-être, je le mettrai dans la playlist sur le blog. Auditeur, auditrice, il a bien le blog de l'émission Spectaculaire, je le redonnerai en fin d'émission. Donc écoutons J'ai tant attendu, et nous enchaînons ensuite sur la chronique de Francis, l'égoïsme se partage, chronique presque littéraire.
Marcher le long de la plage, quand on veut ça si beau coquillage, des sangliers, j'en avais foulé par saison pour ces reflets. J'ai porté sa cour.
Entre ces murs, c'est chacun pour soi. Si tu veux ton mètre carré où personne t'emmerde, il faut le défendre bec et ongle. Et oui, Christophe, me revoici pour la 3e édition consécutive. En effet, comme il pleut, j'ai le temps de lire un peu plus et donc de venir parler de mes dernières découvertes de la chronique 46 797e chronique. Les millions d'auditeurs et d'auditrices qui nous écoutent chaque mercredi le savent maintenant, ce mois-ci est consacré au Polar pour parler de la 20e édition de ce magnifique festival Quai du Polar qui aura lieu la semaine prochaine du 5 au 7 avril. Cette semaine, je vous parle d'univers carcéral, de vengeance. C'est du loi du talion. Encore un texte qui s'affranchit totalement des clichés du polar et qui appartiennent à ce genre et que par cet infatigable talent qui rit et qui nous pousse à lire ses pages page après page sans jamais lâcher ce livre envoûtant. Chronique presque littéraire, l'égoïsme se partage, hashtag 38. Peine perdue de Nicolas Lebel, publié aux éditions du Masque. Entre ces murs, c'est chacun pour soi. Si tu veux ton mètre carré où personne t'emmerde, il faut le défendre bec et ongle. La vie est fragile, elle est précaire, rien n'est jamais acquis. Théo, jeune étudiant, un soir de fête commet l'erreur de prendre sa voiture après avoir trop bu. Évidemment, il percute un abribus et tue une jeune femme qui s'y trouvait. Il est donc condamné et se retrouve dans la prison de Bruegel, un univers hostile où il devient une proie évidente pour les autres détenus. Il y a un règlement dans cette cage, un ordre des choses qui s'apprend sur le tas, le plus souvent dans la douleur. La loi de la jungle reste la loi, avec des articles très clairs. D'abord, ce qui lie le détenu avec l'extérieur est effacé, nié. Plutôt, les cartes sont rebattues. Ton passé, ta famille, ta classe sociale, ton boulot n'intéresse personne. Que tu aies été trader ou cordonnier, tu ne vaux pas mieux que le type de la cellule voisine. Alors évite de te la jouer seigneur visitant les gueux, noir, arabe, blanc, français ou pas, chômeur ou pas, jeune ou vieux, coupable ou innocent. Tous les tolards sont en théorie égaux. En tombant dans cet égout et se tutoie, inutile de la ramener sur qui tu étais ou d'où tu viens. Ça n'apporte que des problèmes. Nicolas Lebel, à travers ce récit, nous décrit l'exploitation de la faiblesse, bien entendu, mais subtilement, il nous explique ce que sont les situations qui rendent une personne faible. À l'école, un jeune n'ayant pas les codes peut vite se retrouver en échec scolaire. Un citadin perdu dans la jungle devient dépendant de son guide. La faiblesse dépend des situations et des contextes. Eh bien, en détention, c'est la même chose. Ce jeune étudiant brillant et intelligent devient une proie dans cet univers hostile. Le décor est donc planté, et le récit nous rappelle ce magnifique film de Jacques Audiard, Un prophète, et l'intrigue nous rappelle celle d'un certain Pierre Lemaître dans Trois jours et une vie. Une fois par mois, le mari de la victime rend visite à Théo pour qu'il raconte encore et encore les derniers instants de son épouse en échange d'un témoignage en faveur d'une hypothétique libération anticipée. Systématiquement, quelques jours avant ses visites, Théo se fait tabasser par un de ses co-détenus payé par le mari de la victime. Une soif de justice, non, d'injustice. Un comble venant de ces réprouvés. Un véritable jeu pervers se dessine au fur et à mesure des pages où la définition du mot justice se mélange avec celle du mot injustice et la définition du mot vengeance avec celle du mot perverse. Le talent de Nicolas Lebel ne s'arrête évidemment pas là. Le récit s'enfonce encore plus bas au fil des pages où la perversité s'accélère. Tout est juste dans ce texte, tout est précis, chirurgical. On dévore ce livre qui n'a rien des codes traditionnel du polar, on y découvre aussi l'introspection, le regard que l'on peut avoir sur soi, qui dépend bien évidemment du regard que les autres ont sur vous-même. Et dans le cas de Théo, c'est l'enfer à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est ça le miroir de Bruegel, les yeux des autres sont et ceux du dehors. Bref, vous l'aurez donc bien compris, c'est un véritable coup de cœur, car véritable coup de maître. Peine perdue de Nicolas Lebel. Il sera en rencontre dédicace à la FNAC Bellecour samedi 6 avril dans le cadre de Quai du Polar.
Eh bien, tu as en fait commencé un peu, Francis, l'agenda de fin d'émission. Nous sommes toujours avec Pauline Cassidy pour parler de quelque chose de bien. Mais voilà, fin d'émission, c'est un peu différentes annonces. Tu parles du samedi 6 avril qui est la semaine prochaine. Il y aura également le samedi 6 avril un beau concert à l'Opéra. Pas de la musique classique, c'est en fait l'opéra underground qui va sur la scène première. Antonio Zambujo, un beau chanteur portugais, sera accompagné par un musicien brésilien. Et c'est un concert qui a lieu le samedi 6 avril. Il y a également le samedi 6 avril, le festival sera terminé, lui, le festival d'opéra, qui sera donné sur la scène principale aussi. C'est donné jusqu'à la veille, le vendredi 5 avril. Plusieurs opéras sont encore donnés. Il y en avait trois. Il en reste encore deux tout de même. Il reste La fiancée du Far West de Puccini, ainsi que La Dame de Pique de Tchaïkovski. C'est donné en alternance à l'opéra. C'est dans le cadre du festival Rebattre les cartes. Et ils sont beaux. Je les ai vus tous les deux. De belles œuvres. Alors attention, Tchaïkovski, bien 5 heures, il faut bien compter 5 heures. Il y a deux entrées qui sont un petit peu longs.
Mais... avoir un petit sandwich.
Éventuellement. Mais voilà, c'est. Et puis, comme toujours, la mise en scène peut être éventuellement prêtée à différentes interprétations, mais ce qui est de la musique pure, les musiciens de l'orchestre de l'Opéra de Lyon, ainsi que le chef d'orchestre et les chœurs, Daniele Rustioni et les chœurs sont absolument. Et les chanteurs aussi, les artistes lyriques, ténors, sopranos. Sont absolument stupéfiants, brillants, géniaux, et c'est très très bon. Un spectacle se termine cette semaine, c'est jusqu'au samedi 30 mars. Les Possédés d'Ilfurt, je l'ai vu la semaine dernière. C'est très spécial, c'est à la Célestine, au Théâtre des Célestins, c'est la petite salle qui se trouve dessous, c'est très spécial. Pourrais-je dire, âme sensible, s'abstenir, il y a quand même des propos, des scènes qui sont un peu... des choses un peu dérangeantes, néanmoins très intéressantes en termes de harcèlement et de vocation d'artiste aussi. Il y a tout un parcours qui se trouve dans cette œuvre. Les Possédés d'Ilfurt, qui un texte de Jan Ferburg, interprété par Lionel Lingelser, qui est en fait l'écrivain a écrit le texte avec l'interprète. C'est un travail en commun et il y a un investissement de l'artiste qui est absolument étourdissant. Il sue, mais des litres et des litres d'eau. D'ailleurs, il en boit aussi, mais vraiment, il est possédé. L'artiste lui-même sur scène est complètement possédé par son texte. C'est assez stupéfiant, c'est assez fou de voir ça. Et puis voilà, je pourrais aligner aussi tout un tas d'autres annonces sur des choses qui se terminent un petit peu. Bricus Maximus, c'est le légionnaire qui est à Luc de Noms. L'exposition se termine le 9 juin. À Confluence, il y a beaucoup d'expositions. Elles sont peut-être trop nombreuses pour que je les évoque toutes. À Bulucan, à la Fondation Bulucan, l'exposition qui porte un beau nom. C'est toujours le cas, la Fondation Bulucan. C'est toujours des noms qui sont assez poétiques. L'exposition se termine. Il y a encore un tout petit peu de temps, c'est pas tout de suite, ça arrive à la... c'est sur début avril, ce sera le 13 avril la fin. Écoutez ce beau titre, Imago, de Yann Lacroix. Imago tout court, je pensais que c'était un peu plus élaboré, un peu plus long, mais c'est quand même des œuvres très... J'ai cette phrase ici, l'intensité est silencieuse, son image ne l'est pas. J'aime qui m'éblouit puis accentue l'obscur à l'intérieur de moi. Des vers de René Char, voilà, tout de suite ça pose la chose. C'est jusqu'au 13 avril à la Fondation Bulucan. Et puis il y a aussi Aurélien Maury, que nous recevions il y a cela deux semaines. Il expose encore exposition hallucinée, deux expositions.
Illustrateur, oui.
L'une a lieu, voilà, c'est ça, dessinateur. L'une a lieu au Cinéma Comédia, Maybelline Zvortsov. Et lui, il expose à la Galerie de Boskop. Ça se termine le 27 mars. C'est quoi
C'est aujourd'hui.
Aujourd'hui même. Il sort en signature à la librairie Expérience ce vendredi. Et puis, il y a aussi l'appel aux artistes lancé par Marjolaine Larrivé. Je le remettrai sur le blog. Et enfin, pour terminer, la restitution de Anouskan a lieu demain, jeudi 28 mars.
Bravo.
À Bleu du Ciel. C'est à 18h, je crois. Il me semble que ça a lieu. C'était sur réservation que c'était proposé. Et je crois que je vais seulement indiquer l'adresse du blog, parce que tous les renseignements que je donne à chaque fois se trouvent sur le blog de Spectaculaire. Je le prends sous les yeux parce que c'est pas non plus peut-être très très simple. En fait, il faut garder le nom de l'émission en tête, Spectaculaire, et au devant, il faut mettre blog au pluriel, blogs.radiocanu, tout accroché, .org/spectaculaire. Vous aurez toutes les émissions, notamment la 326 de ce mercredi 27 mars avec Cassidy. Il faudra que je mette la playlist en ligne.
Je pouvais aussi annoncer le festival Quai du Polar qui démarre donc la semaine prochaine du 5 au 7
les 5 avril jusqu'au dimanche 7.
Ouais, et c'est itinérant, c'est dans plein d'endroits. Allez sur le site Quai du Polar, il y a plein de rendez-vous qui sont intéressants. Et puis pour rester un petit peu dans la musique, au Marché Gare, il y a un groupe qui s'appelle Bessie aussi, qui joue en fin de semaine, je crois que c'est vendredi ou samedi. Il me semble qu'il reste des places, mais je suis pas sûr. Donc allez écouter Bessie aussi, c'est vraiment exceptionnel.
Marché Gare, dis-tu ?
Au Marché Gare.
Je mettrai ça en ligne. Moi aussi, j'aurais encore même d'autres annonces pour terminer. Il y a une pièce qui est reprise de Jérôme Sauvion à la Comédie Odéon, un Cyrano, qu'il met tout seul en scène. Il est tout seul, il interprète tous les rôles. Et c'est une reprise, et on l'avait déjà reçue l'année dernière. Et puis je pourrais parler de la nouvelle saison de l'opéra qui est déjà arrivée, la saison 24-25. Et oui, là on commence tout doucement en mars-avril. l'arrivée aux nouvelles saisons. Il y aura le bel opéra Wozzeck qui sera donné en ouverture de saison au mois d'octobre. Voilà, plein de choses. Mais Cassidy, qu'est-ce qu'on... Mince, on arrive finalement en toute fin d'émission. Des dates.
Je les avais
sous les yeux, les dates.
Alors, on sera le 17 avril... là, on sera le 30 mars à Strasbourg, le 17 avril à Chambéry, le 18 à Genève, le 19 à Kusel en Allemagne, le 20 à Stuttgart en Allemagne aussi, le 25 mai au Festival Changer d'air. Et puis en juin...
On bascule en juin, c'est ça.
En juin, on va à Rennes,
la ferme de Quincé,
à Bordeaux, à...
Nantes aussi, au Super Gluten.
Et puis il y aura d'autres dates. Voilà,
Festival dans le Morvan, déjà, on bascule. Ouais, on passe là, en juillet même.
Ouais, après, le reste, c'est...
C'est... Alors, juste pour le dire aux auditeurs et aux auditrices, elle dit ça de tête. Hein.
Oui, c'est ça. Je suis impressionné.
Elle a toutes les dates
c'est
dans la tête.
C'est parce que je fais je boucle mon
avis.
Et il y aura le singe aussi. Mais alors ça, c'est quand même vraiment plus tard.
Ça, c'est très loin. Non, mais
21 novembre.
Non, on peut pas annoncer ça, c'est trop loin.
Ça se trouve néanmoins sur le... Je suis sur le compte Instagram. D'ailleurs, si on souhaite vous retrouver, vous êtes sur
Instagram,
toutes les plateformes, vous êtes partout.
Sur les internets.
Et si on donne un nom d'artiste, tu peux donner toutes les dates de n'importe quel artiste comme ça ou...
A priori, pour se quitter, on va pas faire Animal Collective. Il me semble.
Octobre.
C'est le dernier titre qu'il nous manquait pour.
Une guitare voix.
Pour parler de l'album Quelque chose de bien. Auditeurs, auditrices, Cassidy, c'est comme ça que les émissions se terminent généralement. Nous n'avons pas tout dit, mais quand même, là pour une fois, j'ai quand même le sentiment qu'avec les questions ouvertes que tu nous reprochais presque, j'ai l'impression, Francis, on a quand même évoqué un paquet de choses. Néanmoins, on peut peut-être dire, Francis, on lui propose, faudra revenir.
Évidemment.
Faudra revenir pour peut-être un autre album. Il y a des projets, je crois, mais vous ne pouvez pas trop en dire. Bon, ben, quand ces projets seront davantage... Disciple, quand on pourra en parler, il faudra venir à l'émission pour le faire. Nous vous remercions donc d'avoir parlé de Quelque chose de bien, un album sorti en janvier dernier. Vous recommandez de le prendre quoi ? Vinyle, CD ou non, plutôt écoute,
n'importe.
Écoute streaming. Tout est très bien.
Tout est très bien.
N'importe. Les émissions à venir dans quelques instants, pas tout de suite, à 16h le Blues des Canuts, 18h Mayday, 19h Canu Info, 20h émission de l'UCL Idées Noires, 21h jusqu'à 10h la bande son de nos révoltes et à 22h Les Mix jusqu'à minuit, émission Funkystérie, fun, funk, punk, c'est bien, on aura parlé vachement pop, on aura parlé de plein de choses, électro, on a dit aussi le mot tout à l'heure, c'était psyché, c'est ça, c'est années 60-70, on se termine avec ce titre octobre, peut-être une petite présentation éventuellement, donc vous avez dit guitare-voix, c'est ça?
C'est un guitare-voix, c'est une chanson qui parle d'accouchement, de maternité.
D'accouchement d'album.
D'accouchement, de vrai accouchement.
Nous nous retrouverons la semaine prochaine, le 3 avril, avec Marie-Albert, une danseuse de l'Opéra de Lyon. Le 10 avril, pour parler de chorale. Petite pause ensuite, le 15 mai, avec Thiago Guedes, le directeur de la Maison de la Danse. Et le 22 mai, c'est chaque année le cas, nous évoquerons un petit peu le festival.
Festival Changer d'air.
On recevra comme invité, je crois, un certain Francis.
Oui, et puis Mimi Obonsawin et Faux Soleil, deux artistes canadiens.
Ah bah c'est très bien. Oh mince, j'ai l'impression qu'il y a déjà un titre qui a été lancé. Allez voilà, je lance plutôt octobre. Merci beaucoup Cassidy, c'était vraiment un réel plaisir, très intéressant. Octobre, il se lance sans moi, j'ai l'impression. Zut, qu'est-ce que ça... On va bien réussir à le lancer. Merci Francis, auditeur, auditrice. Portez-vous bien, il fait un peu frais aujourd'hui, mais je crois que le printemps quand même s'en vient. Restez à l'écoute des bandes de Radio Canu, des bandes continues, et surtout là pour l'instant le titre octobre. Merci, au revoir tout le monde.
Je le sais.